faudrait aller voir, suggéra Nem. À moins que nous ne suivions une fausse piste, l'enfant et les ravisseurs ne s'y trouvent point, répondit Edan. Mais le gamin a pu se réfugier dans ses bicoques avant d'être enlevé, objecta Nem. Le chevalier en convint d'un signe de tête. Je peux les explorer en vitesse, s'enflamma Kell. Dans le même mouvement, les deux adultes lui opposèrent un refus. Ils approchèrent ensemble du hameau, et s'étant arrêtés aux abords des ruines, lancèrent en vain quelques appels. Ayant confié la garde des chevaux au page, le chevalier et l'écuyer mirent pied à terre. Par précaution, Nem laissa sa hache pendre au bout de son bras droit, et Edan posa la main sur la garde de l'épée. Ils avancèrent à pas mesurés entre les murs lépreux et les appentis branlants. Les hautes tiges des chardons et des cardères, noircies par l'hiver qui s'achevait, avaient poussé en touffe au milieu de l'unique ruelle. Une humidité malsaine suait par les fenestrons et les portes débâclées. Du talon de la hache, Nem repoussait parfois un battant et jetait un coup d'œil à l'intérieur. Dans la pénombre, les chaumes crevés laissaient pendre leurs tiges de sagne ou de bruyère. Ça et là, les colombages se gondolaient de moisissures et de mérules. Des feuilles mortes entrées par les portes ou les toitures percées parsemaient les sols de terre battue. Au milieu de poteries et d'outils oubliés, les crottes de petits animaux étaient répandues en chapelets. Dans une seule chaumine, l'écuyer découvrit les traces d'un campement. On avait fait du feu dans un âtre où avaient été jetés des os de petits gibiers. Mais la cendre était froide. Ayant attiré l'attention du chevalier sur ses restes, Nem remarqua « Le garçon est peut-être passé ici. » « Lui ou n'importe quel vagabond, » allégua Edan. Le chevalier haussa les épaules. « De toute façon, même si ce sont les traces du jeune gueux, cela ne nous apprend pas grand-chose. » Jamais ces ravisseurs ne se seraient abaissés à faire étape dans cette soue. Sortons, nous perdons notre temps. Les deux hommes rejoignirent Kell et les chevaux. Ce coin empeste le malheur, grommela Nem en se remettant en selle. Dressé sur ses étriers, le sire de Vaumacel essayait de se repérer. À l'est, en contrebas du plateau, les campagnes de la seigneurie du Trèfle s'évasaient jusqu'au lointain pluvieux de la vallée du Vernobre. Par beau temps, on aurait pu apercevoir les tours et le temple de Carwell, mais ce jour-là, le ciel était sombre et les panoramas brouillés. Du reste, le chevalier ne s'intéressait guère aux terres ducales. Du haut de sa monture, c'était l'Occident qu'il balayait du regard. Par-delà quelques arpents de landes, le terrain se dérobait et découvrait un paysage montueux de combes, de ravines et de collines toutes chevelues de forêts. Embuées par la distance, les volumes cubiques d'une fortification couronnaient les chines d'un promontoire. Au fond des horizons fuyaient d'infinis rouleaux de nuages poussés par un vent de mer vers l'intérieur du comté de Kimark. Sans mot dire, le chevalier poussa son palefroid en direction du château, suivi par ses deux compagnons et leurs chevaux. Derrière le hameau abandonné, ils retrouvèrent le chemin qui se coulait dans les ronces et les herbes folles. Il les mena jusqu'à un dévers assez abrupt, dévalant dans une ravine boisée. Sous les jambes des chevaux, la bise agitait les cimes des arbres en une houle solennelle. La piste d'Ouchin se délitait en raidillons qui couraient en travers du versant, avant de s'enfiler sous l'orée. Les cavaliers s'y engagèrent en colonne, négociant la descente à une allure prudente. Les rafales se calmèrent lorsqu'ils se retrouvèrent à mi-pente. Mais le vent bruissait toujours son chant grinçant dans les plus hautes branches. Autour d'eux, le sous-bois paraissait plus enchevêtré et plus sombre que sur le coteau de Goborchin. Sans le coup d'œil de Kell, Edan et Nem auraient dépassé la patte d'oie. Arrêtant sa petite monture et le cheval de somme, le page les interpella à grands cris. Il montrait la vieille borne, presque ensevelie sous les feuilles mortes et les mousses. Revenus sur leurs pas, les deux hommes restaient hésitants. L'embranchement était à peine visible. La ramée avait partiellement dissimulé le chemin de traverse, un faux fuyant qui dégringolait de façon encore plus brusque que la piste qu'il suivait. Sautant à terre, Nem gratta la pierre. Il dégagea un motif érodé représentant une chouette au centre d'une roue à rayons.
« Pas de doute, » dit-il en rangeant son couteau. « Ce doit être l'ancien chemin du prieuré. »
Edan poussa sa monture sur quelques pas et écarta du bras les branches qui masquaient le sentier. Il le repéra au ressaut vague, en partie couvert de feuilles pourries, qui se dérobait entre arbres et broussailles.
« La voie est vraiment mal frayée, »
rechigna l'écuyer.
« Justement, »
dit le sire de Vaumacelle, « les gens que nous cherchons empruntent des chemins détournés. » Sans plus balancer, il s'aventura dans ce layon. Remonté en selle, Nem reprit la longe du destrier et suivit, qu'elle fermant la marche. Ils avançaient avec précaution, mais, bien qu'elle courût en travers du coteau, leur allée était si raide qu'ils ne tardèrent pas à plonger dans la pénombre d'une combe profonde. La rumeur du vent faiblit, murmure relégué dans les hauteurs de la forêt. Par endroits, le passage réapparaissait nettement. On discernait encore la saignée pratiquée dans la pente pour ouvrir une voie charretière dont la chaussée affleurait sous l'humus. Mais la plupart du temps, ce n'était qu'une trace à peine visible, parfois coupée par un arbre mort ou par un éboulis. Des pistes animales la croisaient, et il s'avérait difficile de distinguer l'ancien chemin des coulées percées par les hardes. Les cavaliers finirent par arriver en fond de val, mais n'y trouvèrent nulle trace d'occupation. Le pâle froid des dames se faufilait avec distinction à travers la ramée, mais le chevalier devait souvent repousser les branches qui lui barraient la route. Derrière Nem, le destrier ouvrait une trouée à grand fracas de bois brisé, tandis que le roncin de Kel renaclait sous la pluie de brindilles éparpillées dans le sillage du cheval de bataille. Le sol se faisait spongieux sous le pied des montures. Par endroits, des mares boueuses stagnaient au fond de larges bauges. Décontenancés, les voyageurs finirent par marquer le pas.
« Pas l'ombre d'un prieuré, » constata l'écuyer. « Pas même une clairière. Nous aurons pris un change. Nous voici en bout de voie. »
« Les ruines doivent être visibles malgré tout, » réfléchit Edan à haute voix. « Nous sommes descendus trop bas. Il faudrait regagner un surplomb. »«
Si vous voulez, je peux grimper en vitesse à flanc de colline, »
s'écria Kel. Les deux hommes y opposèrent un refus. Ces futaies excitaient leur méfiance. Par-dessus tout, ils craignaient que les cervelets ne se perdît.
« Nous allons remonter ensemble, » décida le sire de Vaumacelle. « Mais d'abord, accordons une pause aux chevaux. »
Au fond de cette ravine ébouriffée de sylves et de morbois, il était difficile d'estimer l'heure. Les compagnons avaient toutefois le sentiment d'avoir erré longtemps. Ils avaient faim. Laissant les bêtes vaguer aux alentours, ils s'assirent sur un tronc couché pour boire et se restaurer. Ils mangèrent de bon appétit, mais ne firent pas un sort aux victuailles offertes par le doyen Magnovald. S'ils ne trouvaient pas de gîte pour la nuit, il était préférable de garder quelques réserves.
Dire qu'on a déjà traversé le pays,
maugré Nem.
10 ans se sont écoulés depuis lors, le raisonnait Edan. Les choses ont changé. De plus, à l'époque nous étions guidés par le seigneur Douchin. Nous ne risquions guère de nous perdre.
Les voyageurs ne s'attardèrent pas outre mesure. Pour éviter de s'égarer, ils revinrent sur leurs pas. La voie qu'ils avaient tracée était claire. Cependant, quand ils commencèrent à remonter le coteau, la marche se fit plus difficile. Certains des animaux, comme la jument pie ou le cheval de bât, renâclaient devant les portions éboulées du sentier. Les compagnons redoutaient une chute. Il eût été catastrophique qu'un des coursiers s'y cassât une jambe. Après une brève discussion,
Eddan et Nem prirent le parti de s'écarter du sentier pour couper dans des sous-bois dont la pente paraissait plus douce. La décision porta ses fruits pendant quelque temps. L'allure en fut plus aisée, et le petit groupe remonta un peu à flanc de colline. Toutefois, alors que le vent regagnait en force dans la ramée, signalant qu'ils approchaient du sommet, la futaie redevint bouleversée et touffue. Un grand degré de calcaire ébréché émergeait au-dessus d'eux entre racines et feuilles mortes. Il eût été facile pour des piétons de le gravir, mais il demeurait infranchissable pour des chevaux. Les compagnons le longèrent, espérant trouver un dénivelé moins accidenté qui permît de le contourner. Cette recherche les promena à travers des épaulements et des creux. Ils y perdirent progressivement le nord. Ils avaient pourtant le sentiment de dominer d'assez haut le val où ils avaient rebroussé chemin. Entre les branches nues des arbres, ils apercevaient, à une demi-lieue peut-être, le sommet plat de la colline voisine. Ils étaient remontés à peu près à la même altitude. Un détail toutefois les désorientait. Cette éminence n'était couverte que de landes et de taillis, alors que depuis le finage de Verchères, il leur avait semblé que tous les monts du voisinage étaient boisés. Il leur fallut un moment pour élucider ce mystère. En fait, ce sommet buissonneux n'était autre que Verchères. Ils avaient si bien tourné dans le val et sur les coteaux, que croyant revenir sur leurs pas, ils avaient en fait gravi une éminence voisine. Cette prise de conscience leur inspira une certaine confusion. Ils s'arrêtèrent, craignant de se fourvoyer complètement. Le ciel couvert ne leur permettait pas de se repérer d'après la position du soleil. Plissant les yeux, ils essayaient de reconnaître le versant de Verchères pour estimer s'ils avaient continué à marcher vers l'ouest ou s'ils avaient dévié dans une autre direction. Ce fut ainsi, un peu par hasard, qu'ils débusquèrent la menace. « Il y a du monde là-haut !» s'écria Kell. À cette distance, on aurait presque pu confondre ce mouvement avec l'agitation des breuils bousculés par le vent. Cependant, au milieu des taillis et des friches, serpentait lentement une longue colonne de piétons. Quand Eddan et Nem l'eurent aperçu, ils tâchèrent de repérer qui ouvrait la marche et qui la fermait. Mais la troupe était si étalée qu'on n'en discernait ni l'avant-garde ni le serre-fil. Quelques cavaliers, suivis par une petite remonte, accompagnaient ce déploiement. « Ils sont nombreux, » marmonna l'écuyer. « Trop nombreux pour la bande du Molosse, » estima le sire de Vaumacel. Ils essayaient de mieux distinguer l'équipement des routiers. Cependant, l'éloignement, la grisaille et l'écran des branches secouées par la brise ne leur facilitaient pas la tâche. Les marcheurs paraissaient engoncés dans des livrées disparates mais sombres. L'ombon d'un bouclier renvoyait parfois un éclat terne. « Ils ont peu de lances, » s'étonna Nem. « Je vois de longues haches et des épées à une main et demie, » s'exalta le page. « Ce sont des ouromans, » conclut l'écuyer. « Les cavaliers portent une bannière, » constata le chevalier. « Quelle ? En discernes-tu les couleurs ?» Le freluquet étrécit les yeux en prenant une pose avantageuse. Il scruta un moment le fanion minuscule qui dansait au loin sur la colline. Pour finir, il se mit à rire. « Vous n'allez pas me croire! C'est le cerf de Bromel !»« Qu'est-ce que tu nous chantes ?» grogna Nem. « Je vous jure! De sable aux rencontres de cerf héliophore. Ce sont les armes du duché !»« Ah, mais il y a une brisure !» Une traverse de gueule. Il s'agit donc de Monseigneur Domnal, déduisit Eddan. Cela nous éclaire sur les ouromans. Voici le grand bâtard et ses mercenaires. Eh bien, quelle chance d'avoir perdu notre chemin, souffla le vieil écuyer. Il était inutile d'en dire plus. S'ils étaient restés sur la route d'Ouchain, ils eussent déjà été au pouvoir de ces hommes. qu'aurait décidé le grand bâtard. Sa réputation de bravoure n'était plus à faire, mais elle était entachée de brutalité et de discourtoisie. Si le hasard lui avait livré le chevalier de Vaumacel, les scrupules ne l'auraient probablement pas étouffé. Il se serait saisi de sa personne sans lui offrir un combat loyal, à seule fin de le vendre à la justice du duc. Les trois compagnons contemplèrent de loin le passage de la soldatesque. Quand les derniers traînards eurent disparu en direction de Goborchin, ils se remirent également en marche. Ayant retrouvé leur repère, ils partirent vers l'ouest, tournant le dos à la troupe de soudoyers. Bien qu'elle les éloignât du péril, cette décision ne leur simplifiait pas la tâche. La corniche calcaire qui les avait empêchés de gagner le sommet du coteau se transformait en escarpement haut comme deux hommes, les forçant à longer une pente de plus en plus raide. Dissimulés sous les feuilles mortes, les décombres chus de la paroi glissaient parfois sous le pied des chevaux. Les cavaliers mirent pied à terre. Ils se mirent à guider les bêtes par la bride, en écartant les pierres dangereuses. Tout occupés à cette tâche, sans doute passèrent-ils les premiers avertissements sans les voir. Ce ne fut qu'au bout d'un moment que le chevalier qui ouvrait la marche eut l'œil attiré par un objet sinistre. Une excroissance calcaire attira son attention sur un tronc. Sa teinte ivoire, tirant sur le jaunâtre, ressemblait à celle d'un polypore, mais sa forme n'avait rien d'un champignon. Il s'agissait du crâne d'un gros canidé, lié au fût avec une cordelette grossière. Les voyageurs s'arrêtèrent un instant et inspectèrent les arbres alentour. Ce trophée était le seul signe néfaste à la ronde, mais la futaie et la courte falaise qui la dominaient se firent plus oppressantes. Les lieux ne se prêtaient que trop à une embuscade. Pourtant, le chevalier et ses gens reprirent la marche sans hésiter. Ils se montraient un peu plus vigilants, mais ne manifestaient guère d'inquiétude. Ils savaient que le chien qui montre les dents n'est pas forcément le plus à craindre. De fait, la traverse qui les surprit peu après n'avait rien d'un guet-apens. Une branche basse s'accrocha dans le bagage du cheval de bas. Se sentant tiré en arrière, le roussin prit peur, renâcla, et ses écarts le firent dangereusement patiner sur le sol instable. Qu'elle saisit sa bride à deux mains pour le retenir, tout en l'accablant d'injures. Cette agitation et ses cris affolèrent son petit coursier, dont il venait de lâcher les rênes. L'animal bondit en lâchant une ruade, retomba sur une coulée de gravats tapissée de feuilles mortes, et se mit à déraper vers le bas de la pente en hennissant de frayeur. Eddan et Nem l'appelèrent d'une voix ferme, mais emportée par sa glissade, la sotte cavale se débattit à grands bonds qui ne firent que décrocher plus d'humus et de cailloux. Elle disparut au fond du val, entraînant avec elle un petit éboulement dans un fracas de branches cassées et de cris stridents. Sitôt qu'il eut un peu calmé le cheval de bas, le page se précipita sur les traces de sa monture. Eddan et Nem le virent disparaître en contrebas avec inquiétude. Le chevalier fit signe à son écuyer de lui confier les rênes de ses deux chevaux pour qu'il pût seconder le garçon. Mais le vieux lige commençait à peine à descendre la pente quand un rire remonta de la ravine. « Je l'ai trouvé !» s'écria joyeusement le freluquet. Nem freina des deux talons en se retenant d'une main au dévers.
« Calme-le d'abord !» lança-t-il. « Ensuite ramène-le en douceur !»
« Je ne vous parle pas du cheval !»
piailla Kell.
« C'est le prieuré que j'ai trouvé !»
Les deux hommes échangèrent un regard surpris, puis fouillèrent des yeux le bas de la pente. Ils ne distinguèrent rien, sinon l'entrelacement broussailleux du sous-bois. Bien que le page et la bête de bas ne fussent plus visibles, il paraissait improbable qu'il y eût des bâtiments au fond de cette futaie.
« Alors, vous venez ?»
s'impatientait le petit drôle. Eddan décida d'inspecter les lieux en personne. Comme il était dangereux d'engager les autres chevaux sur un versant si raide, il les confia à Nem. Puis il descendit la pente de biais, plantant les solerets dans le sol meuble, tout en veillant à ne pas emmêler ses éperons dans des racines. Malgré l'annonce de son page, il s'étonna de découvrir des ruines derrière le treillage des taillis. Naguère, le fond de la combe avait bien abrité une petite communauté religieuse. L'endroit était à présent envahi par une végétation exubérante, mais les murs de plusieurs bâtiments se dressaient encore au milieu de la ramée. De prime abord, il paraissait difficile d'identifier la fonction qu'avaient remplie ces bâtisses éventrées. Elles sombraient dans les ronciers et un gaulis anarchique de jeunes arbres. Par chance, le page et son petit ronsin avaient échoué sans mal au milieu de ces vestiges. Quand ils furent rassurés sur leur sort, le chevalier entreprit d'explorer les vestiges, le godelureau sur les talons. Dans l'enceinte des murs noircis, planchers et charpentes s'étaient effondrés. L'enchevêtrement carbonisé des solives disparaissait sous l'embroussaillement du lierre et des mûriers. Arbustes et baliveaux avaient poussé au-dedans comme au-dehors. Leurs branches jaillissaient des portes et des fenêtres, se balançaient au vent à l'emplacement des combles disparus. Au milieu des décombres et des fourrés courait toutefois un étroit sentier, pas plus large qu'une piste animale. Le chevalier et l'enfant le suivirent. Son tracé capricieux les entraîna sous la colonnade, partiellement épargnée, d'un cloître de dimensions modestes. Les chouettes stylisées sur quelques chapiteaux leur confirmèrent que le sanctuaire avait été consacré à la vieille déesse. Les deux intrus longèrent une mare envahie de plantes d'eau. Sa margelle de pierre et sa forme circulaire avaient appartenu au bassin lustral du sanctuaire. Sous la surface stagnante, on distinguait les premières marches d'un escalier s'abîmant dans l'onde obscure. Plus loin, au milieu d'un bouquet dense d'arbrisseaux, s'élevaient encore, mélancoliques, quelques travées et contreforts du temple. L'écroulement de la toiture en avait crevé le dallage qui béait sur un abîme ténébreux. Eddan et Kel savaient que les cryptes des sanctuaires de la vieille déesse n'étaient pas des catacombes. Mais ils n'ignoraient pas que ces hypogées abritaient les chambres onirocritales. Malgré son effronterie, même le page resta à prudente distance de l'affaissement. C'était au fond de ces caveaux que la déesse prodiguait ses oracles aux fidèles. Certes, on ne craignait pas d'y trébucher sur des morts, on risquait toutefois d'y entrevoir les fantômes d'une cruelle vérité. Cependant, la piste se détournait du narthex disjoint et de la nef écroulée. Elle aboutissait au pied de ruines plus modestes. Quoique noircies par un ancien incendie, deux arcs de la voûte en berceau d'une ancienne cuisine tenait toujours debout. Une hutte grossière se nichait dans leur ombre. Il s'agissait à peine d'une cabane, tout au plus d'un abri en branchage. Les gravats avaient été déplacés sur une petite aire autour de la cahute. Les traces d'un piétinement boueux, les cendres d'un foyer et un vieux pot à cuir révélaient que l'endroit était occupé. Eddan appela à plusieurs reprises, sans obtenir de réponse. Il finit par envoyer Kel inspecter la loge. Celle-ci n'était fermée que par un haillon d'osier que ne fixait nulle charnière. Le page eut au fait de le jeter au sol. L'intérieur du gourbi était noir comme un four. Il y macérait un curieux fumet où se mêlait un relent fétide et une fragrance balsamique. Quand il eut passé la tête à l'intérieur, le garçon n'y distingua que des bouquets de plantes séchées, suspendus au clayonnage la tête en bas, et une guenille froissée sur une paillasse. « C'est vide !» dit-il en se hâtant de sortir. Le chevalier accueillit la nouvelle avec flegme. « D'après le frère Widmer, l'ermite est un vieillard, » dit-il. « Il ne doit pas être loin. Continuons à l'appeler. » L'homme et l'enfant donnèrent de la voix sans obtenir davantage de réponse. Plus haut, sur le coteau, Nem les entendit. Ses cris adressés au frère Hummel le rassurèrent. Puisque ses compagnons se préoccupaient de l'ermite, la chute du ronsin était sans gravité. Nem caressa le chanfrein des chevaux qu'il gardait pour les tranquilliser. Ce ne fut qu'au bout de quelques instants qu'il fut secoué par un haut-le-corps. Il venait de réaliser qu'il n'était pas seul. À moins de 20 pas, à même hauteur que lui sur le versant, une grande silhouette se dressait dans le sous-bois, aussi immobile que les troncs. Une robe terreuse flottait sur ses membres grêles, ridiculement troussés au-dessus de mollets blanchâtres. Le capuce enfilé de biais dissimulait le visage de cette silhouette. D'une main noueuse, l'inconnu s'appuyait sur un bâton poli par l'usage. L'écuyer, qui avait pourtant le cœur solidement accroché, se sentit gagné par un accès d'angoisse. Tant cette ombre dérivée en silence jusque dans son voisinage possédait une allure spectrale. L'attention du rôdeur restait pourtant concentrée sur le bas du val, d'où remontaient les appels. Bizarrement, alors qu'il était difficile de passer à côté de l'énorme destrier et du splendide palefroid, l'étranger les ignorait parfaitement. Reprenant ses esprits, le vieil écuyer l'interpella. « Hola, l'ami! Êtes-vous l'ermite de Sénantes ?» L'épouvantail eut un sursaut, ce qui suffit à dissiper les alarmes de Nem. Sous la capuche coiffée de guingois, une figure émaciée venait de se tourner vers lui. « Que voulez-vous ? » s'écria-t-elle. « Quel est ce tapage ? Êtes-vous bien le frère Hummel ? D'où tenez-vous ce nom ? C'est le frère sergent Vinmer qui nous l'a appris. Nous venons de Goborchin. Ah ! Bien sûr ! Le tourier du doyenné ! » maugréa la sette. Cet indiscret ne sait pas tenir sa langue. En échangeant ces quelques mots, Nem s'était approché du solitaire. Il découvrit le faciès décharné d'un grand vieillard aux yeux chassieux. Il portait en bandoulière une petite musette d'où dépassaient des bouquets de violettes, de plantains et de lamiers blancs. Mais le parfum de ses fleurs précoces ne suffisait pas à couvrir l'odeur aigre de sa robe. Malgré son aspect misérable, l'ancien parlait avec un air d'autorité.
« J'ignore ce que vous a conté Vinmer, » poursuivit-il, « mais vous serez déçus dans vos attentes. Le prieuré n'existe plus, et je ne suis plus augure. Je vis seul dans ces bois. Je n'ai même pas de quoi offrir le gîte à des voyageurs. Ne perdez pas davantage de temps, passez votre chemin. »
Ce propos délivré d'un ton sec ne plut guère à Nem. Mais l'écuyer garda ses commentaires pour lui. Il jugea préférable de héler ses compagnons pour les avertir qu'il avait trouvé l'ermite.
« Êtes-vous contraint de me casser les oreilles ?»
grommela le vieillard. « Vous pourrez bientôt vous en plaindre auprès de monseigneur, » lui répondit Nem sur le même ton.
« Voilà longtemps que je ne me fie plus à la justice des hommes. Je vous absous. Allez donc dire à votre maître que l'herbe est plus verte ailleurs.
Le chevalier ne sera peut-être pas de cet avis.
C'est donc qu'il a la vue plus courte que la mienne.
Ne voulez-vous pas descendre? Le sire de vos macelles se trouve déjà dans votre ermitage. » À ces mots, le frère eut une réaction singulière. Une expression effarée décomposa sa figure ravinée.
« N'ayez crainte, » déclara Nem de mauvaise grâce. Nous ne sommes point des pillards. »
Cette précision n'eut pas l'air de rassurer l'ermite. Ayant dégluti avec difficulté, il s'enquit avec un léger chevrotement.
« Quel nom avez-vous donné à votre seigneur ?»«
Le sire de vos macelles. »
« Le sire de vos macelles. » « Est-il de la maison du chevalier Edan de vos macelles ?»«
Sans conteste, c'est lui-même. » Le frère Hummel resta un instant bouche bée, plein d'un ébahissement qui n'était pas sans déconcerter Nem. Très vite, l'expression du vieillard se modifia à nouveau, et son museau parcheminé se plissa de dérision. Il partit d'un rire rentré, d'une gaieté un peu forcée. La mine partagée, l'écuyer se demandait si cette anachorète avait encore toute sa tête.
« Le sire de vos macelles !»
reprit l'ermite sur un ton acide.
« Voyez-vous cela ?
Le connaissez-vous ? demanda l'écuyer avec quelque circonspection.
« De réputation seulement. Mais j'en ai beaucoup entendu parler. Eh bien, puisque la dame l'a amené jusqu'au fond de ce val, j'imagine qu'il va m'être donné de le rencontrer en chair et en os. C'est tout ce qu'il demande. Croyez-vous? Pour ma part, je crains que ce ne soit bien plus.
Vraiment? Que voulez-vous dire?
Oh, rien de sensé. À force de pérorer tout seul, je parle souvent pour ne rien dire. Allons! Puisque telle est la volonté de la déesse, descendons dans le val et présentez-moi à votre maître.
Compte tenu de son grand âge, le frère Hummel n'emprunta pas la voie fort raide par laquelle avait dégringolé le ronsin et Kell. À petits pas, il suivit une sente à peine frayée qui louvoyait en pente douce par quelques détours. Quoique le passage ne fût guère large, il permit à Nem d'emmener les chevaux sur les traces du vieillard. De l'ermite, l'écuyer ne voyait plus que le dos et le capus de travers. Il entendait son souffle court, comme si cette petite marche l'éreintait, et il lui sembla que la main se crispait sur le bâton, peut-être parce que l'ancien craignait une chute. L'arrivée dans les ruines du prieuré ne fit qu'accentuer le pressentiment déplaisant que cette étrange rencontre avait inspiré au valet d'armes. Le chevalier et le page, qui avaient entendu le pas des chevaux, s'étaient portés au-devant d'eux. Ils les retrouvèrent près des vestiges du cloître.
« Ah, frère Hummel, que je suis aise de vous voir, » lança Edan. « Je craignais de ne pas avoir l'agrément de vous saluer. »
« C'était un tort de le craindre, »
rétorqua le vieillard en s'arrêtant tout net. « Sans doute, mon écuyer Nem, vous a-t-il déjà annoncé mon nom et ma qualité ?»«
Il l'a fait, » convint l'ermite. « Mais je ne suis pas sûr de les avoir bien entendus. Pourriez-vous me les donner à nouveau ?»«
C'est la moindre des courtoisies. Je suis le chevalier Edan de Vaumacel. Je voyage dans ces contrées sur la requête du seigneur du trèfle. »
Le frère Hummel opina du chef. Il affichait à nouveau une expression médusée, comme si la confirmation que venait de lui apporter son visiteur lui paraissait hautement improbable. Derrière lui, Nem se tapota le front pour signifier à son seigneur ce qu'il pensait de leur hôte. Un court moment, celui-ci parut effectivement désorienté.
« Je n'ai plus l'habitude du monde, »
finit-il par bredouiller. « Je vous prie d'accepter nos excuses, »
répondit obligeamment le chevalier. « Après tout, nous venons troubler votre retraite.
Mais je tenais à vous entretenir de l'affaire qui m'amène dans les parages. »
« Cela va sans dire. Au préalable, me laisserez-vous le loisir de mettre mes simples à sécher ?»«
Faites donc. Voulez-vous l'aide de mon page ?»«
Non, non, surtout pas !»
se récria l'ermite en jetant à Kell un coup d'œil plein de défiance. Malgré ses jambes mal assurées, il se hâta de regagner les ruines de la cuisine et de s'engouffrer dans sa hutte.
Le fratricelle est un peu piqué.
Et il n'est pas très propre, ajouta Kell assez haut.
Ayez de l'indulgence pour le grand âge et la solitude, tempéra Edan.
Le frère sergent avait quand même raison, conclut l'écuyer. Nous perdons notre temps.
En attendant que l'ermite eût suspendu ses plantes, les deux servants d'armes entreprirent de déharnacher et de brosser les chevaux. Ils eurent tout loisir de passer l'étrille aux cinq bêtes. Le vieillard n'avait point reparu et son réduit restait silencieux. À bout de patience, Nem finit par se pencher devant la porte.
« Hola, frère Hummel, vous nous avez oubliés ?»
Il y eut enfin du mouvement à l'intérieur.
« Nullement, nullement !»
bredouilla l'ancien en ressortant de sa tanière. Il considéra la pièce à moitié écroulée d'un air hagard.
« Je ne suis guère en mesure de vous recevoir, »
déplora-t-il.
« Mon hôtellerie ne fournit ni le gîte ni le couvert. »
« Nous n'en demandions pas tant, »
répliqua Edan avec magnanimité. « Il nous reste quelques provendes.
que nous nous ferons un plaisir de partager avec vous. Quant au siège,
d'un geste il ordonna à Kell d'y pourvoir. Le page partit fureter dans les éboulis et fit rouler jusqu'à eux de gros moellons. Nem entreprit de rallumer le petit foyer de l'ermite. Bientôt les trois voyageurs étaient assis en vis-à-vis de l'ancien, accroupi à l'entrée de sa hutte.
Nous ne comptions pas vous importuner très longtemps, reprit le chevalier. Nous voulions juste réclamer vos lumières sur une énigme qui nous occupe.
Comme je l'ai dit à votre suivant, je ne suis plus augure.
Aussi n'est-ce pas au ministre de la vieille déesse que nous nous adressons, mais au forestier. Avez-vous entendu parler de la disparition du petit Milouin à Goborchin?
Vous le savez aussi bien que moi, puisque c'est ce bavard de Villemer qui vous envoie. Il m'a déjà interrogé à ce sujet.
Et nous confirmez-vous ce que vous lui avez répondu? Le vieillard leva les yeux au ciel.
Coupons court à ces circonlocutions, protesta-t-il. Et venons-en plutôt au motif réel de votre visite.
Le sire de Vaumacel haussa un sourcil déconcerté.
Mais je viens de vous donner ce motif à l'instant.
L'ermite fit mine de balayer la réponse d'un geste, puis parut gagné par le doute.
Vraiment ?
Demanda-t-il sur un ton incrédule.
N'êtes-vous venu ici qu'à la recherche d'un enfant ?
Que ferions-nous d'autre dans cette désolation ?
Répliqua le chevalier avec humeur. Une expression étrange éclaira la face du vieillard. Partagé entre le soulagement et le sarcasme, il étouffa un gloussement.
Vous n'êtes là que pour un petit gueux ?
S'émerveilla-t-il comme s'il savourait une secrète plaisanterie.
Je ne vois pas ce que cela a de si drôle, gronda le chevalier. Je vous saurai gré de m'en expliquer le sel, sans quoi je pourrais le prendre en mauvaise part.
Oh, pardonnez mon incivilité,
rétorqua le vieillard en adoptant un air doucereux.
Voilà longtemps que je me suis retiré loin du monde, et j'en ai perdu les usages.
Il luttait manifestement pour contenir un rire nerveux.
Or donc, vous êtes sur la piste du jeune Milouin,
poursuivit-il avec quelque précipitation.
Comme je vous l'ai dit, je crains de ne pas vous être d'un grand secours.
Le sire de Vaumacel lui jeta une œillade ombrageuse, trouvant la dérobade aussi cavalière que le ricanement. Mais il n'y avait nul honneur à demander raison à un pauvre air. Prenant sur lui, il en revint donc à son propos.
Vous avez reçu la visite du sergent Villemer, qui s'inquiétait de la disparition du petit Milouin,
récapitula-t-il.
D'après ses dires, l'enfant ne s'était pas montré dans votre ermitage. Est-ce bien ce que vous lui avez soutenu?
Oh, le barbon est franc comme l'or. Vous pouvez le croire. J'ai dû lui tenir un discours à peu près de cet ordre.
Un discours à peu près de cet ordre.
Eh bien, j'ai répondu à ces questions comme je réponds aux vôtres.
Il se trouve justement que j'ai du mal à démêler vos réponses.
Je l'entends fort bien, et cela ne m'étonne guère. C'est que vos questions sont mal posées.
Mal posées. Il me semble au contraire que mes demandes sont clairement formulées,
rétorqua le chevalier sur un ton un peu raide. Nem ne disait mot, mais avait planté les pouces dans son ceinturon pour garder son calme. Kell avait l'air de trouver la discussion fort divertissante. L'ermite leva un index noueux dans un geste très doctoral.
« Vous vous exprimez très bien comme le prud'homme que vous êtes, » convint-il. « Mais vous n'êtes pas au clair avec votre conversation. Et ne parlons pas de votre situation. » Voyez-vous, je ne suis plus augure. Par le passé, je ne l'ai jamais été que fort médiocrement. Mais je n'en ai pas moins exercé ce sacerdoce. Dans sa sagesse, la déesse nous enseigne un paradoxe. Ces ministres doivent répondre aux questions qui leur sont posées, et ces questions sont rarement ce qui préoccupe vraiment les suppliants. J'ai donc répondu aux questions du frère Widmer, comme je réponds aux vôtres, tout en sachant que cela ne vous mènerait pas où vous voulez aller.
« Allons bon, » s'offusqua le sire de Vaumacel. « Ainsi donc, vous savez où je veux aller.
N'est-ce pas la raison pour laquelle vous êtes venu m'interroger ?»
La réplique prit de court le chevalier, ce dont le vieillard parut tirer satisfaction.
« Parlons sans embâge, » poursuivit-il. « Cela éclairera un peu votre lanterne. Quand ce bon Widmer m'a rendu visite, la dernière fois, il m'a demandé si j'avais donné refuge au jeune Milouin. Je lui ai répondu que non, ce qui était la stricte vérité. Le tourier en aura déduit que le petit gueux n'est jamais venu à ces Nantes. C'est fort mal raisonné. Que je n'ai pas hébergé l'enfant ne signifie pas qu'il n'est point passé.
« Vous voulez dire qu'il a fait étape dans votre ermitage ?»
intervint Nem avec vivacité.
« C'est très probable, quoique je ne puisse en jurer. »
« Vous vous jouez de nous ?»
s'irrita l'écuyer.
« Pas plus que vous de moi, » repartit l'ancien. « Car dans le fond, vous n'avez que faire de ce jeune vilain. Il n'est qu'un maillon de la chaîne que vous remontez vers ses nouveaux seigneurs. Comme je ne parle plus au nom de la déesse, je suis libre de répondre aux questions que vous avez omis de me soumettre. Ce n'est pas un seul enfant qui est passé par ce val, mais une petite dizaine. Comme ils ne m'ont pas été présentés, j'ignore si Milouin faisait partie du lot, mais je conjecture que c'est plus que probable. Ce n'est pas à eux que j'ai eu affaire, mais à ceux qu'ils suivaient, à ceux que vous suivez également, si je ne me trompe du tout au tout. »
Cette tirade fit son effet. Un long instant, les trois visiteurs en restèrent sans voix. Ce fut le page qui s'ébroua le premier.
« Vous avez menti à un sergent de l'ordre ? » s'écria-t-il sur un ton plus admiratif qu'indigné. « Ce petit effronté n'a pas retenu un traître mot de ce que j'ai expliqué. »
se renfrogna l'ermite.
Il n'en demeure pas moins que vous avez dissimulé la vérité au sergent Widmer,
releva le chevalier.
Je ne lui ai pas dit ce qu'il ne m'avait pas demandé, corrigea le vieillard. Aurais-je eu la légèreté de lui apprendre ce que je viens de vous confier, que serait-il advenu? Au mieux, ce brave Widmer se serait lancé à la poursuite de l'enfant et de ses suborneurs. Il aurait fait buisson creux avant de tomber sur le couteau d'une des méchantes bandes qui écument ses bois. Au pis, il en aurait averti les vilains de Goborchin et le château du Trèfle. Le nouveau seigneur Douchin et son sénéchal auraient vu les battus opérer sur leurs terres comme autant d'empiétements. Or, vous savez aussi bien que moi comment se terminent ces chicanes-là. Dès lors, mieux valait se conformer aux préceptes de la déesse.
« En ce qui nous concerne, vous ne vous y conformez guère, »
observa le sire de Vaumacel.
« Je vous le concède. Toutefois, pour parler en casuiste, votre démarche diffère de celle de Widmer. Quant à moi, n'étant plus augure, je ne suis plus tenu à une stricte discipline. Le fait est que vous savez ce que vous cherchez. Vous êtes plus averti que notre ami commun sur ce que vous risquez de trouver. »
Le chevalier jaugea l'ermite avec une expression nouvelle. Il paraissait reconsidérer l'opinion qu'il s'était faite du vieillard.
« Peut-être vous êtes-vous retiré, mais vous voici plus clairvoyant que jamais, »
salua-t-il.
« Eh bien, soit, parlons net. Avez-vous vu les ravisseurs en personne ?»«
Fort mal, car j'ai jadis trop usé mes yeux sur les codex et les écritoires. Je dirais plutôt que ce sont les ravisseurs qui sont venus me voir.
Combien étaient-ils?
Ils étaient trois.
Étaient-ils armés?
Magnifiquement. Ce malheureux Widmer les aurait-il rattrapés? Ils n'auraient pas fait de vieux os.
Ont-ils décliné leur nom?
Ils s'en sont bien gardés,
Était-il étranger? Tout dépend de ce que vous entendez par là. Ce ne sont point des sujets du duc. Voilà qui est certain, mais d'une certaine façon, ils sont ici chez eux autant que vous et moi.
Comment les enfants se portaient-ils?
Un sot vous répondrait qu'ils se portaient à merveille. Éveillés, parés de nobles atours, enchantés par l'aventure. Mais je ne vous apprendrai pas qu'ils souffraient de subtils sévices. Chimère, oubli, emprise, dressage, jeux absurdes. Et encore, sans parler de ce qui les guette si l'on tarde à les libérer de ce joug.
L'ermite glissa une œillade soupçonneuse à Kell. Les ravisseurs sont-ils venus vous consulter? Poursuivit le sire de Vaumacel.
Oh non. Ils m'ont juste rendu une visite. Ils avaient de charmantes manières. Mais j'hésite à parler de visite de courtoisie. Je dirais plutôt qu'ils étaient curieux. Ils savaient... Peu importe ce qu'ils savaient. C'est assez irritant de constater que vous avez beau fuir le siècle trouve toujours le moyen de vous débusquer.
Vous ont-ils délivré quelques messages?
Rien. Sinon des inconséquences. Leur seule présence suffisait à faire sens.
À combien de temps cela remonte-t-il?
Il y a un moment, quelques semaines peut-être. Je ne tiens plus le compte des jours. Il y avait encore de la neige.
Ont-ils mentionné des projets? La destination de leur voyage?
Des projets? En avaient-ils seulement? Je crois qu'ils vagabondaient à l'aventure.
Avez-vous quelque idée du chemin qu'ils ont suivi en quittant votre ermitage?
Suivaient-ils seulement des chemins? Non. Ils n'ont fait aucune allusion à leur prochaine étape.
Le vieillard fronça les sourcils et parut réfléchir.
Peut-être n'y ont-ils pas fait allusion parce qu'ils empruntent des routes disparues. Je n'ai nulle assurance de ce que je vous avance, seigneur chevalier. Mais à votre place, je ferai un détour par le Drucervin avant de quitter ces collines.
Quel est cet endroit?
Il s'agit d'un mont inculte des hautes terres. Mais jadis, à une époque reculée, bien plus ancienne que la fondation du royaume de Léomance, le Drucervin fut couronné par un palais. Voyez-vous, longtemps avant de devenir une marche frontière entre le duché de Bromel et le comté de Quimarc, la Gurande a été le cœur d'une province qui couvrait les vallées du Vernobre et de la Claye. Le château du Drucervin en fut le joyau, du moins jusqu'aux calamités de la prédication d'Ocan. Bien sûr, de nos jours, il n'en reste rien, sinon peut-être quelques pierres enfouies sous les racines. Mais l'endroit est suffisamment désert pour attirer nos pérégrins. S'ils ont poussé leur vagabondage jusqu'à ce Nantes, j'incline à croire qu'ils se rendront sur le mont en quête d'antiques souvenirs.
Le chevalier hocha la tête d'un air pensif, tandis que Nem, qui semblait avoir perdu son animosité, considérait l'ermite avec un regain d'intérêt. « Comment gagne-t-on le Drucervin ? » demanda le sire de Vaumacel.
« Difficilement, » répondit le vieillard. « Il vous faudra remonter à Verchères. De là-haut, quand vous verrez le château d'Ouchain, prenez à main gauche vers les collines les plus sauvages. Peut-être trouverez-vous encore le chemin de Brécoat. Mais le finage a été déserté à cause des crimes du sénéchal Rovel. Le Drucervin est le mont le plus imposant au sud du village abandonné. Pour y accéder, je crains que vous ne deviez frayer votre propre voie à travers bois.
Est-ce loin?
Si la route avait été bonne, j'aurais dit une demi-étape, mais les chemins ne sont plus très praticables, et vous n'en trouverez pas au-delà de Brécoat. Comptez plutôt une bonne journée de marche, et encore, si vous ne vous perdez pas dans les collines.
Le chevalier échangea un regard avec son écuyer. Sans un mot, ils parvinrent à la même conclusion. Ils ne pourraient gagner ce mont avant la nuit.
« Connaissez-vous un endroit où nous pourrons faire étape ? »
entre ici et le Drucervin, sans qui le sire de Vaumacel.
Hormis des repères de malandrins, je n'en vois guère, répondit l'ermite. Les manants que Brass Crevel n'a pas accrochés à une potence ont fui la seigneurie. Beaucoup sont partis louer leurs bras sur le chantier de Neuvidine, où l'on dit que le comte de Quimarc édifie un nouveau château pour faire pièce à celui d'Ouchin. Sur les hautes terres, vous ne trouverez même plus un village de charbonniers.
Dans ce cas, nous dormirons à la belle étoile, dit légèrement le chevalier. Il se releva pour prendre congé. Sans attendre son ordre, Nem et Kel entreprirent d'enharnacher les chevaux. Pendant qu'ils œuvraient, le sire de Vaumacel adressa quelques formules de remerciement à l'ermite. Celui-ci les accueillit d'un air chagrin.
« Je ne mérite pas votre gratitude, » finit-il par grommeler. « Si vous voulez exprimer de la reconnaissance, rendez grâce à la déesse. Nous nous sommes rencontrés par sa volonté. »
Alors louez soit sa bienveillance.
Louez plutôt sa sagesse. Je ne suis pas sûr que ses desseins nous soient propices.
Voilà d'étranges propos dans la bouche d'un de ses ministres.
Oh, je n'ai jamais été un bon prêtre. Mais sur le tard, j'ai fini par cerner un peu mieux les voies de la déesse. Elle nous instruit de l'inévitable, non pour nous épargner, juste pour nous préparer.
Entendez-vous par là un présage funeste?
J'entends par là que la déesse ne m'a pas seulement mis sur votre chemin pour vous parler de trois mauvais plaisants et d'une vieille colline. Notre face-à-face est un signe en soi. Un signe, je l'espère, et non un intersigne. Cela m'a un peu troublé au premier abord, mais maintenant que vous vous apprêtez à partir, je me sens gagné par une autre inquiétude.
« J'espère que ni moi ni mes gens n'avons rien fait qui ait pu nourrir vos alarmes. »«
Ce ne sont pas vos agissements qui importent. Du reste, vous n'êtes pas en faute. En fait, c'est plutôt moi qui le serais, si je vous laisse repartir à cette heure pour le Drucervin. »
Il désigna d'un geste embarrassé les ruines du prieuré. « Cette retraite n'est pas digne de recevoir des visiteurs, » dit-il.
« Mais vous ne trouverez rien de mieux dans les hautes terres à moins de demander l'hospitalité au château d'Ouchin. » Jusqu'à présent, ce val n'intéressait personne, à part le doyen de Goborchin et son tourier. Si vous campez dans ces murs, quelles vigies se soucieront de vous? On croira que je suis seul. Or, je ne retiens ni l'attention du nouveau seigneur de ce fief, ni celle de la créature déchue qui se fait appeler le molosse d'Ouchin. En revanche, bivouaquez dans d'autres futaies et votre feu attirera de dangereux rôdeurs. Quoique cela ne soit pas dans ma coutume, et que je n'ai qu'un semblant de sûreté à vous prodiguer, vous feriez mieux de passer la nuit à Senante. Si vous partez demain à l'aube, vous n'aurez perdu que peu de temps, et vous profiterez de tout le jour pour gagner le Drucervin ou quitter ses collines.
Le conseil parut bon au sire de Vaumacel, qui commanda à ses gens d'ôter brides et selles aux chevaux. La hutte de l'ermite était trop petite et trop malpropre pour accueillir les voyageurs, mais ceux-ci improvisèrent un camp sous les quelques arches qui restaient de l'ancienne cuisine monastique. Le frère Humel n'avait qu'une poignée de racines à mâcher. Les voyageurs partagèrent avec lui leurs provisions. Il ne mangea du reste qu'avec parcimonie. Il leur demanda des nouvelles du vaste monde. S'il ignorait à peu près tout du remariage du duc, de la naissance de son dernier-né et de la discorde que la répudiation de la duchesse Odéarde avait suscitée dans la maison ducale, en revanche, ses visiteurs furent frappés par son excellente connaissance des lignages de Bromel.